RCF.
La doctrine sociale de l'Église, c'est le thème que nous abordons toute cette semaine avec vous, frère Jacques-Benoît Raucher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, vous avez pris le temps de regarder de près cette doctrine de l'Église, cette doctrine sociale de l'Église, sociale, politique, économique. Beaucoup de thèmes sont abordés, des thèmes contemporains, des thèmes sur lesquels l'Église a cherché à avoir une réflexion pour justement ne pas aller vers les raccourcis, ne pas peut-être avoir des injonctions aussi morales. Et l'un des thèmes que vous abordez, c'est celui des migrants, celui de l'étranger. Thème objet de beaucoup de crispation, d'incompréhension aussi, et puis peut-être de contradiction au sein même des chrétiens. On a du mal à y voir clair sur ce thème.
Oui, alors ça, je dois dire que j'en ai fait l'expérience, moi, plusieurs fois, parce qu'il m'arrive de donner des conférences à droite à gauche sur la question de la doctrine sociale de l'Église. Et alors, quand j'aborde la question des migrants, je vois dans toutes les assemblées les chrétiens se diviser. Et ça, c'est très intéressant à constater. Ce qui est encore mieux, c'est quand ils arrivent malgré tout à discuter. Mais parfois, c'est tellement tendu qu'ils restent figés sur leur position. Donc, c'est une question qui est compliquée. Oui.
L'objet de la division, qu'est-ce que c'est ?
En gros, pour faire vite, c'est d'un côté ceux qui vont dire « Si vous ne voulez pas accueillir les migrants, c'est que vous ne comprenez rien à l'évangile » où le Christ nous dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Et puis en face, ceux qui disent « Vous êtes idéaliste et irréaliste. Si vous accueillez trop les migrants, le christianisme va disparaître, notamment en France ».
Oui, alors vous soulignez ce point-là parce qu'il est présent dans la doctrine sociale de l'Église aussi, de dire que cette tension-là que vous évoquez, elle existe. L'étranger, oui, mais l'étranger arrive avec sa civilisation, sa religion, c'est présent dans l'Ancien Testament. Et si ça crée une instabilité, alors il faut se reposer la question de l'étranger.
Oui, exactement. Et je trouve que c'est là où on voit que la tradition chrétienne, ce n'est pas du prêt-à-penser. Moi, j'identifie dans la Bible un peu quatre grandes figures de l'étranger. L'étranger pauvre qui est dans une situation dramatique, qui est toujours à accueillir, d'après la Bible. Mais il y a aussi l'étranger qu'on appelle l'étranger menaçant, parce que la Bible dit bien, oui, ça peut déstabiliser une société, ça peut même déstabiliser la foi de personnes d'accueillir des étrangers qui viendraient avec une culture différente, avec une foi différente, et il ne faut pas le mettre sous le boisseau, cette question. Mais elle nous dit aussi, l'étranger, il vient enrichir ma culture, voire il vient m'ouvrir vers Dieu. C'est les troisième et quatrième catégories que je vois dans la Bible, l'étranger riche et l'étranger icône.
Donc, là, c'est quel personnage ? L'étranger riche ?
L'étranger riche, alors ça, c'est plutôt, par exemple, la reine de Saba, qui vient s'instruire de la sagesse de Salomon. Mais aussi, on nous dit dans la Bible que, il faut être très ouvert aux cultures, notamment à la culture grecque, pour les Hébreux, qui peuvent leur dire des choses extrêmement intéressantes sur la philosophie. C'est dans les premiers siècles du christianisme, un saint Grégoire qui dit, il faut que les chrétiens s'ouvrent à la culture païenne, parce qu'il y a dedans des choses extrêmement intéressantes qui leur aideront à développer leur réflexion. Donc voilà, l'étranger riche, c'est celui qui, n'appartenant pas au peuple de Dieu, vient quand même me dire quelque chose qui est bon pour ma culture et pour ma vie spirituelle.
Alors c'est vrai que cette citation du verset de l'évangile selon saint Matthieu, on l'entend beaucoup. J'étais pauvre et vous m'avez accueilli. J'avais faim et vous m'avez nourri. Est-ce que vous diriez qu'il y a un usage mal compris de cette phrase ? Pourtant, elle est claire.
Je dirais pas un usage mal compris parce que, comme vous dites, elle est claire et elle implique un comportement clair. Quand l'étranger se présente à notre porte et nous demande de l'aide, quand il est dans une situation de détresse, on ne peut pas transiger avec la question de l'accueillir. Si on a affaire à des étrangers qui sont entre la vie et la mort pour des raisons humanitaires, pour des raisons politiques, il n'y a pas à débattre. Le chrétien doit l'accueillir, ça c'est clair. En revanche, dans toute une série d'autres questions sur, par exemple, l'accueil de personnes qui viendraient travailler, l'accueil de personnes qui viendraient s'installer sans forcément être dans des situations de grave péril, on peut débattre, on peut discuter sans être nécessairement des nationalistes fermés.
Vous diriez qu'aujourd'hui, justement, le débat, il s'est durci là-dessus. Comment se terminent vos soirées où vous intervenez avec une telle division dans l'Assemblée ? Est-ce qu'on a quand même une aspiration commune aussi, on pourrait dire, pourquoi les chrétiens ne se mettent pas d'accord sur cette question ?
Alors, ça se termine généralement bien si on arrive à se rappeler justement de ces différentes figures que j'ai évoquées, c'est-à-dire si on arrive à regarder que dans la Bible et la tradition chrétienne, on a pensé en fait cette pluralité et qu'on a le droit de discuter en dehors encore une fois des cas de grave nécessité, de la pertinence ou non d'accueillir un étranger. Je crois que ce qui ne va pas, ce sont ces espèces d'injonctions au nom de l'évangile de type « il faut accueillir tout le monde parce que le Christ s'identifie à l'étranger ». Ça, c'est une interprétation facile et qui est dangereuse aussi parce que je crois s'abriter autour d'un verset pour directement dicter un comportement politique, c'est pas quelque chose qui est digne du chrétien.
Ce avec quoi vous êtes prudent, c'est l'interprétation littérale des versets de la Bible au final.
C'est l'interprétation littérale d'une part, et d'autre part, c'est la volonté de dire qu'un verset biblique doit dicter immédiatement mon comportement pour aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est quelque chose que le chrétien ne peut jamais faire. J'insiste un petit peu là-dessus parce que sinon on est dans une perspective qu'on appellerait théocratique, c'est-à-dire de dire à partir de la Bible, à partir de l'Évangile, je vais avoir immédiatement un mode de comportement politique qui va être dicté. Et ça, le chrétien ne peut jamais rentrer dans cette logique-là parce que le Christ nous le dit bien. Il y a un domaine qui appartient à César et un domaine qui appartient à Dieu. Le domaine du politique, c'est le domaine qui appartient à César. Le domaine qui appartient à Dieu, il vient m'inspirer dans mon comportement, mais il ne doit jamais être un décalque immédiatement de mon comportement politique.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Jacques-Benoît Rocherve, puisque vous parlez de la politique, j'en viens presque au vote. Comment est-ce qu'on peut se retrouver parmi les propositions des candidats sur à la fois un droit qui dit aussi des choses, l'accueil, celui auquel on est appelé, mais aussi une certaine réalité, un certain réalisme aussi?
Alors d'abord, je le répète, j'enfonce le clou, mais je crois que c'est très important, un chrétien ne peut pas se fermer à un étranger qui serait en situation de grave nécessité, que ce soit humanitaire parce qu'il est sur un radeau en Méditerranée, ou un réfugié politique par exemple. Ça, je crois qu'il n'y a pas à transiger là-dessus. Un chrétien ne peut pas non plus adopter un comportement qui serait celui d'un nationalisme de fermeture, qui consisterait à dire « ma culture française, italienne, belge, enfin tout ce qu'on veut, ma culture est supérieure aux autres ». Et à ce titre-là, je dois me fermer complètement à toute influence extérieure. J'ai souvent envie de dire, heureusement, que dans l'Empire romain, les gens ne se sont pas comportés comme ça, sinon on n'aurait pas eu l'Évangile en France, hein, puisqu'il nous vient justement de cultures qui n'étaient pas la culture à l'époque dominante sur notre territoire national. Donc non, un chrétien ne peut pas être dans un nationalisme de fermeture. En revanche, oui, un chrétien peut dire à un moment donné, accueillir trop largement des personnes qui viendraient de cultures différentes risque de déstabiliser l'état dans lequel je vis, risque de déstabiliser la possibilité de réfléchir au bien qu'on a envie de construire ensemble. Et là, peut-être qu'on peut s'interroger, mais pas dans une perspective qui se fermerait à des personnes en grave nécessité ou qui serait dans une perspective de nationalisme de fermeture, c'est-à-dire de glorification d'une culture particulière.
Donc tout le discernement va être sur aussi l'origine de ces personnes, sur ce qu'elles viennent chercher.
Oui, et puis je dirais, puisque vous me posiez la question de façon claire sur aussi les programmes politiques, dans quelle philosophie politique ça s'inscrit de façon générale. Parce qu'il ne s'agit jamais de prendre une proposition d'un parti sortie d'un contexte plus général. Si un parti prône, par exemple, complètement la fermeture à l'autre, là je crois qu'il y a quelque chose qui doit être un signal d'alerte pour le chrétien.
Vous voulez dire que ce qu'on retrouverait par exemple au niveau des frontières ou au niveau de la sécurité, on le retrouverait en culture, on le retrouverait dans d'autres domaines, c'est l'idée de la fermeture qui pose problème?
Oui, c'est l'idée d'une fermeture, d'imaginer qu'une culture pourrait être complètement fermée à l'influence des autres, qu'elle n'aurait rien à gagner à s'ouvrir aux autres. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui est dangereux. En revanche, encore une fois, dire peut-être qu'il y a une nécessité de temps en temps de refonder un petit peu le socle national, le pacte qui nous unit, le bien qu'on cherche ensemble, là pourquoi pas, hein. Mais si c'est dans une perspective globale de fermeture, dans une philosophie qui veut être fermée à l'autre, là le chrétien ne peut pas y trouver son compte.
Frère Jacques-Benoît Rauchère, qu'est-ce que vous faites du principe de solidarité qui sous-tend cette réflexion?
Le principe de solidarité, il est essentiel pour le chrétien. La solidarité, c'est faire en sorte que je reconnais que l'autre, il est membre, il partage la même humanité que moi et il partage le même corps du Christ qui sera l'humanité réconciliée à la fin des temps. Donc je ne peux pas être indifférent à ce que vit l'autre, que ce soit à côté de chez moi ou que ce soit à l'autre bout du monde. Et ça, je crois que c'est très important de se le dire comme chrétien. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et on est appelé à partager le même royaume à la fin des temps. Donc si je vois en l'autre à la fois quelqu'un qui a été comme moi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et si j'y vois finalement mon concitoyen dans cette cité des cieux vers laquelle on tend tous, ben je le vois finalement différemment que quelqu'un qui vient m'embêter parce qu'il vient me demander son aide aujourd'hui.
Frère Jacques-Benoît Rauscher, qu'est-ce que vous faites de l'idée que Dieu a créé la terre sans frontières? C'est encore tenable cette phrase?
Alors c'est une phrase qui a été beaucoup développée par des penseurs chrétiens, alors notamment au XVIe siècle, mais elle a été reprise encore par le pape Jean XXIII il n'y a pas longtemps, en disant au fond, ce qui prime avant les frontières nationales, c'est l'appartenance à une famille humaine. Et pour le chrétien, c'est quelque chose qui doit être toujours au-dessus de l'appartenance nationale. Après, il ne faut pas non plus être romantique à l'excès. C'est vrai qu'on peut avoir plus de soins pour les gens qui appartiennent à son propre pays, qui appartiennent à sa propre famille. Et c'est pas grave non plus qu'un chrétien se préoccupe d'abord de ces personnes-là, mais si elle s'en préoccupe au point d'en être fermée à l'ensemble de l'humanité, il y a quelque chose qui est plus chrétien là-dedans. C'est finalement mettre de l'ordre dans la manière dont on exerce l'amour pour le prochain. Évidemment, on se préoccupe d'abord de ses enfants, de sa famille, de ses concitoyens, mais si cette préoccupation nous conduit à nous fermer aux autres, ben voilà, il y a quelque chose du message chrétien qu'on n'a pas pleinement reçu.
Merci frère Jacques-Benoît Rauscher. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger » publié aux éditions du Cerf. Et puis si on vous reçoit, c'est parce que vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Découvrir la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter ». Et on évoquait justement ce principe de solidarité qui fait partie de la doctrine sociale de l'Église. Merci à vous.
Merci.